Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL. Nos conversations vont nous porter comme chaque jour jusqu'à 15h30. On est fait pour s'entendre, c'est l'émission qui nous ressemble. Alors forcément, elle n'est pas toujours parfaite. Et c'est tant mieux. Et pourtant, la quête de perfection semble être l'un des grands maux de notre société. Que ceux qui n'ont pas de complexe lèvent le doigt, c'est l'un de nos grands points communs. Que se cache-t-il derrière un nez jugé trop grand, des lèvres pas assez charnues, un ventre ramollo ou une calvitie? Même si nous sommes masqués depuis un an, notre société est plus que jamais un monde de l'image qui encourage les régimes, les filtres et les retouches photos, le maquillage, les implants, les liposuctions, les injections de Botox et compagnie. Alors, encourage-t-elle aussi indirectement nos complexes, cette société? Sommes-nous tous complexés? Certains complexes sont-ils insurmontables? La chirurgie esthétique est-elle vraiment la seule option qui permette de s'en débarrasser? On en parle tout de suite avec Hélène, qui est en ligne avec nous. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL, Hélène. Merci d'être avec nous. Vous avez 38 ans, vous habitez du côté de Strasbourg. Est-ce que vous accepteriez que je vous appelle Madame Complexe?
Oui, je trouve que ça très bien.
Bah oui, parce que on a Monsieur Patate, on a Monsieur Grognon, et voilà. Et puis bah voilà, aujourd'hui on parle à Madame Complexe. Mais ça fait longtemps, Hélène, que vous avez cette vie-là?
En tout cas, ça fait longtemps que j'ai des complexes. Ouais. Ils sont plus ou moins prononcés. Je les vis plus ou moins difficilement selon les périodes. Mais oui, effectivement, ça fait un bout de temps que je vis avec.
Ça a commencé avec quoi et comment?
Honnêtement, j'aurais du mal à vous répondre. Enfin, je sais pas, mais au moins à partir de mes 10 ans, je crois.
Et vous vous souvenez de ce qui vous complexait à l'âge de 10 ans?
Alors, au départ, si je suis tout à fait honnête avec vous, je pense que quand même la question de la puberté est très difficile à vivre.
Ouais.
Ça n'a pas été que ça, ou toujours cet aspect-là, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que ça a déclenché quelque chose. Mais je pourrais vous dire aussi que, par exemple, quand j'étais petite, je faisais de la danse classique et que j'ai jamais été à l'aise. Donc, c'est plus large que la question uniquement physique.
Donc, on l'entend et visiblement, vous avez déjà compris ce qui se cache derrière certains de vos complexes. Ce ne sont pas qu'un regard que vous posez sur votre corps. Donc, c'est être à l'aise en règle générale. Si je vous demandais de vous définir, Hélène, qu'est-ce que vous me diriez? Si on fait les présentations, on ne se connaît pas physiquement. Voilà. Qui êtes-vous, Hélène?
Alors, moi, je vous répondrai surtout sur un plan professionnel, parce qu'en fait, c'est peut-être l'un des seuls domaines dans lequel je suis à l'aise. Mais dès lors qu'on aborde les questions de personnalité, de mes conditions de vie, je vais être mal à l'aise. C'est-à-dire que dès lors que je vais devoir me dévoiler, je serai plus en difficulté.
Mais si je vous demande physiquement à quoi vous ressemblez, est-ce que je parle à une jeune femme brune, à une jeune femme blonde, à une jeune femme grande?
Alors... comment dire, en société, et donc là, à l'antenne, je vous répondrai ce que pense la part des autres, mais je ne vous dirai pas ce que moi je pense. Donc, ce que les autres peuvent me dire, et effectivement, ce que je vois dans le miroir, c'est que je suis brune, c'est que je fais 1m70, c'est que j'ai un physique, disons, normal, voilà, passe-partout, sans défaut vraiment très apparent. Et puis, si je vous dis ce que moi je pense, bah, ça va être des mots très durs. Donc je ne sais même pas si j'ose les dire à l'antenne.
Alors, vous savez, des mots durs, on s'en adresse parfois. Moi, je m'en suis très souvent adressée. Je peux vous aider si vous voulez. Et vous aimez me dire, ça vous va ou pas?
Okay.
Moi, par exemple, très longtemps, et je vous livre un truc qui est vrai, j'ai dit que j'étais répugnante.
Mm-hmm.
Ça vous parle, ce genre de choses?
Alors, moi, je n'ai pas ce qualificatif, mais vous voyez, par exemple, je me suis déjà traitée de baleine échouée.
C'est pas mal non plus dans le genre. Hein.
Voilà, c'est pas mal, ouais. Mm-hmm. Quand à certains moments, je me focalisais sur mes cuisses, par exemple.
Mm-hmm.
Ça peut être, horrible.
Mm-hmm.
Je sais pas, des visages de déterrés. Enfin, c'est des qualificatifs vraiment très agréables.
J'entends.
Oui.
Est-ce que vous pourriez parler de quelqu'un d'autre que vous comme ça?
Non.
C'est
non,
dingue.
Non, jamais. Hein. Ouais. Je sais pas comment le dire. C'est une forme de jugement qui est sans limite. Qui contient presque de la méchanceté, en fait, à l'égard de soi-même. Mais donc, non, jamais je penserais ça de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est-à-dire que non seulement je ne le dirais pas, mais la pensée elle-même ne me viendrait pas.
Hélène, vous vous comparez aux autres? Par exemple, si on va à la plage toutes les deux, on irait à la plage déjà ou pas?
Alors, difficilement.
Ouais.
Donc, je pense qu'il faudrait qu'on se parle avant, enfin, qu'on soit amis pendant bien 5 ans.
Ouais.
Voilà. Et je le ferai parce que ce qui me motiverait avant tout, c'est quand même le contact et la relation qu'on aurait pu nouer. Mais ce serait une épreuve pour moi, avant, pendant.
Parce que vous auriez à vous dénuder et parce que vous vous compareriez aux autres ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Après, si je suis tout à fait honnête, il faut bien reconnaître qu'en fait, le pire, c'est l'avant. C'est tout ce qu'on peut s'imaginer, tout ce qu'on peut se dire, justement, à soi-même. Alors que quand vient le moment, finalement, on est dans l'idéal dépassé par autre chose, par le dialogue qu'on va avoir, par, la beauté de la plage, par exemple, du paysage, qui va prendre le dessus. Mais c'est quand même pas facile.
Si on va faire du shopping toutes les deux ?
Si on va faire du shopping, alors déjà, il faudra me convaincre, parce que c'est quelque chose que je déteste. Déjà, alors bon, j'ai pas une affection toute particulière pour les fringues, mais même, ça me met dans des états tellement durs parfois que je vais avoir du mal. Ouais.
Comment vous pourriez définir ces états ?
C'est le rejet de soi-même.
Oui, mais ça passe par quoi ? Par exemple, si vous êtes dans une cabine, est-ce que vous êtes...
En fait, je vais me focaliser sur quelque chose et imaginons que ce soit un après-midi de shopping, c'est une idée qui va s'ancrer en moi et qui finalement gâchera ce moment et m'empêchera de poursuivre cette partie de shopping.
Vous en pleurez parfois ?
Ça m'est déjà arrivé. J'ai l'impression que c'est moins fort ces derniers temps, enfin par rapport à une certaine période de ma vie.
Ouais.
Ça peut encore se produire, ou en tout cas, ça peut me rendre très triste. Après, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y a l'objet du complexe, mais il y a le sentiment. Et l'objet du complexe, il se déplace, justement, selon les périodes de la vie, selon comment on est soi-même, selon ce qu'on vit par ailleurs. En revanche, ce sentiment, il est là et très profond.
On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL et puis je vais vous présenter nos invités qui vous écoutent avec évidemment beaucoup d'attention et puis d'une forme de compassion parce qu'on a envie de vous prendre dans les bras en disant on va réagir là Hélène. Et en même temps, qu'est-ce que c'est compliqué effectivement de vivre dans ces complexes. On se retrouve tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Avec Nino Ferrer sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Eh bien, aujourd'hui, on parle de nos complexes. On se demande s'il est des complexes insurmontables. Je vous lirai les messages que nous avons reçus au sujet de l'acné, du strabisme, du poids, des cheveux, de la peau, de la pilosité. Voilà, parce qu'en général, on a un complexe qui est bien précis. Alors, il en est une, là, qu'on a en ligne. Elle est complexée de manière générale et on sent à quel point c'est lourd pour vous, Hélène. Mais vous ne supportez pas votre image. Si je vous invite dans une pièce avec plein de miroirs,
c'est vrai que chez moi, il y a des jours où je vais complètement fuir les miroirs qui sont dans mon appartement parce que cette image m'est trop difficile, m'est trop pénible.
Allez, je vous présente Cécile Guéret qui est notre invitée aujourd'hui. Elle est thérapeute gestalt. Bonjour Cécile, soyez la bienvenue sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Hélène.
Bonjour. Alors quand je prends Hélène et que je lui dis qu'elle est mise complexe, on sent que ça vient de loin, hein, tout ça. C'est un état qui peut se généraliser d'une façon totalement chronique, Cécile Guéret. Est-ce qu'il faut mener à un moment donné l'enquête aussi sur notre mal-être ?
Alors oui, ça peut être effectivement intéressant de mener l'enquête. Ce que j'étais vraiment très touchée par votre échange. Je trouvais que c'était tellement beau et tellement précieux ce que vous échangez toutes les deux. C'était vraiment très touchant, j'ai trouvé. Ce qu'il y a, c'est que ce serait alors peut-être effectivement mener l'enquête sur d'où ça vient, à quel moment ça s'est déclenché. Est-ce que c'est la remarque de quelqu'un de l'entourage ? Hélène, elle parlait de la puberté aussi, de la question de la maîtrise du corps aussi, peut-être avec la danse classique. Donc il peut y avoir des éléments comme ça dans notre histoire qui vont un peu expliquer que ça se fixe sur tel ou tel complexe. Mais je crois que ça peut être aussi, quand c'est difficile à vivre, comme ça a l'air d'être le cas pour Hélène, peut-être d'aller se faire aider, hein, d'aller voir un thérapeute pour essayer de comprendre comment ça se joue dans la relation à l'autre. Parce que évidemment, il est question du regard de l'autre, de l'estime de soi et de comment on existe avec l'autre.
Il en est un qui est notre invité également, c'est Julien Dufresne-Lamy. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes auteur de romans et j'ai adoré le dernier Antichute chez Flammarion qui est super bien écrit. Et on peut dire que vous êtes un chauve touriste. C'est vous qui le dites, hein ?
C'est l'éditrice et j'étais pas sûre de l'expression, mais ça me va.
Ah, moi, je trouve que ça va très bien. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer la problématique et le complexe qui a été le vôtre ? Et je sens, dans ce que dit Hélène sur le mal-être, que ce qu'elle a vécu, vous aussi, vous l'avez connu.
Le livre, effectivement, raconte... ça commence par cette scène un matin. J'ai 22 ans et je découvre un peu par hasard, en regardant un peu plus profondément dans le miroir que les autres fois, je vois en fait que je commence à perdre mes cheveux. Je suis d'abord dans la stupeur, dans la surprise, parce que je n'ai pas grandi avec des figures masculines chauves ou dégarnies.
Bien au contraire d'ailleurs.
Bien au contraire, et donc j'avais l'impression de voilà, jamais finalement avoir projeté ce problème, cette névrose-là, et à partir de ce jour-là... ces cheveux qui tombent et qui ne finiront pas de tomber. Je passe 10 ans en fait de un peu ce que comme disait Hélène avec une honte de moi et la peur du regard des autres avec cette chute qui n'en finit pas et c'est un peu voilà le point d'entrée du livre.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à Hélène parce que vous allez mieux aujourd'hui voilà vous allez nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Hélène justement qui elle semble être un petit peu j'irais désorientée dans un monde de complexes.
En fait, ça me rappelle l'époque où justement j'avais ces paroles de réassurance des proches et de ouais. qui me disaient voilà que la calvitie ne se voyait pas. Enfin, ces paroles qui sont censées un peu réconforter, mais qui en fait ne nous touchent pas parce qu'on reste campé en fait sur nos positions, sur nos complexes qui en fait effectivement altèrent notre rapport au corps, notre rapport à l'autre, notre estime de nous-mêmes. Évidemment, il y a des. Moi, ce que j'ai eu envie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a des différents remèdes, en fait, différentes façons de penser en fait ces complexes, de les guérir, de les corriger, ou de surtout de les accepter, de vivre avec de façon plus sereine et de façon plus apaisée. Mais je crois que c'est un parcours, comme en fait tout voyage.
Un long parcours.
Hein. Un long parcours, ouais. Comme tout apprentissage. Et ça demande du temps et un ralentissement de soi, surtout.
Docteur Aurède Marco, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien plastique et esthétique à l'hôpital Saint-Louis. Bon, vous êtes responsable de la reconstruction post-cancer à l'hôpital
tout
et vous
fait.
Êtes chirurgien esthétique dans le privé à Paris. On va se retrouver dans un instant. Hélène, si vous deviez changer des choses, vous le feriez ou pas chez vous ?
Ben, je changerais plutôt mon manque de confiance en moi.
D'accord. Donc, on va en parler justement, est-ce qu'à un moment donné, ceux qui viennent dans votre cabinet, docteur Aurène Marco, sont parfois aussi des personnes comme Hélène qui
fait.
Ont bien compris que le complexe vient d'ailleurs. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse à nos complexes. Est-ce qu'il est des complexes insurmontables ? Nous sommes avec Hélène, qui est un complexe, je dirais, elle toute seule. Mais vous avez compris quelque chose, Hélène. Et nos invités vous écoutent. Hein. Cécile Guéret, qui est thérapeute gestalt. Julien Dufresne-Lamy, qui est auteur de romans et auteur d'un livre sur la chute des cheveux. Et puis le docteur Aurène Marco, avec lequel on va justement échanger dans un instant. Vous avez compris, Hélène, que les complexes ont bien souvent, en fait, une origine bien lointaine, finalement, du simple regard que l'on pose sur soi. Docteur Aurène Marco, si vous recevez une jeune femme comme Hélène dans votre cabinet.
C'est tous les jours qu'on reçoit des complexes,
oui.
Mais des complexes quand même bien identifiés avec effectivement soit quelqu'un qui perd ses cheveux, soit quelqu'un très souvent, le complexe qui revient le plus, c'est le nez. Parce qu'au milieu du visage et parce que le nez, c'est très particulier. Il y a une histoire, en fait, qui a été d'ailleurs pendant longtemps étudiée, notamment en psychanalyse. Et donc, ces complexes identifiés, soit on peut y répondre et on estime que le patient ou la patiente sont aptes à recevoir une chirurgie et qui pourraient être salvatrices, pourraient les aider à aller mieux. Là, dans le cas d'Hélène, ça m'est arrivé de recevoir des patientes. J'ai carrément eu une patiente qui est venue il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, de très loin, en me disant « voilà, je viens parce que je suis moche ». Sans identifier aucun
tiens, Hélène, ça vous fait réagir.
Problème. Et j'avoue avoir été d'abord très ému de recevoir une patiente qui parlait d'elle en ces termes. Et j'étais un peu dans le désarroi parce que je ne savais pas par où commencer pour essayer de la prendre en charge. Et on a réussi quand même, j'ai réussi à parler avec elle. C'est vrai que c'est des consultations un peu plus longues. J'ai réussi à faire sortir des choses et à pointer du doigt peut-être dans le passé de cette jeune femme, ce qui n'allait pas. Et elle a peut-être un peu ouvert les yeux derrière. Et je l'ai après, du coup, adressé aux thérapeutes avec lesquels je travaille, parce que je travaille bien souvent avec des thérapeutes, soit des psychanalystes, soit des psychiatres, soit des psychologues, pour aider à prendre en charge les complexes.
Ce qui veut dire, en fait, que le complexe peut être pris en charge d'une façon pluridisciplinaire. C'est
pluridisciplinaire,
ça que vous nous dites, docteur Marco.
C'est comme tous les cas.
Ouais.
Évidemment, il y a des complexes qui sont, j'ai envie de vous dire, quand vous voyez une petite jeune fille qui vient, qui a un nez très fort, qui est gêné, je vais pas, je comprends, on y va. Je sais que ça va être salvateur. Par contre, effectivement, derrière, pendant la consultation, j'essaye de voir s'il y a des petits paramètres, des petites choses qui montrent quand même que derrière, il y a un mal-être plus profond que le simple, une simple bosse ou un peu de gras sur les hanches ou des seins trop petits. Ou trop gros d'ailleurs, et c'est comme ça que la consultation se déroule. Et après, j'adresse ou j'adresse pas en tout cas.
Julien, vous voulez réagir ?
Je trouve ça rassurant, en fait, oui. d'avoir effectivement ce double prisme-là, à la fois d'accompagnement concret, médical, d'intervention, comme ça, chirurgicale, et en même temps d'avoir cette écoute et cette empathie, ce besoin d'aller un peu, effectivement, creuser aussi dans le passé.
Moi, je suis chirurgien plasticien, je fais de l'esthétique, mais j'ai aussi été patient moi-même, et j'ai voulu devenir chirurgien plasticien parce que moi-même, j'avais des complexes que j'ai réparés. Et qui ont été extraordinairement salvateurs pour moi. Depuis tout petit, j'étais le seul de ma fratrie à avoir un nez monumental.
Je sais pas, vous portez votre masque.
Voilà, donc là, il est retouché.
Il est super beau, hein.
mais j'avais un nez vraiment. Je me sentais pas appartenir à ma fratrie. Je suis entouré de deux frères, et du coup, j'ai ce regard un peu parce que j'ai l'impression de savoir un peu par où passent les patients quand ils viennent me voir. Et c'est pour ça que j'ai un peu cette relation un peu empathique. Et je sais que derrière, il y a toujours quelque chose. Et en ayant été opérée, j'ai vraiment compris les choses et j'ai pu avancer.
Hélène, donc vous avez entendu Cécile Guéret, le docteur Aurène Marco, Julien Dufresne-Lamy qui donc ont traversé, alors je ne sais pas pour vous, d'ailleurs Cécile, pardonnez-moi, mais je disais en début d'émission, on a tous des complexes. Voilà, mais en fait, le complexe peut devenir chronique, on l'entend quelque part, ouais. Cécile Guéret. Qu'est-ce qu'on peut dire à Hélène ? Qu'à un moment donné, il faut emprunter un chemin peut-être d'accompagnement pour pouvoir mettre un doigt sur le problème.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment au bout d'un moment, ce qui transparaît dans ce que racontait Hélène tout à l'heure, c'est que ça l'empêche. Ça l'empêche d'aller à la plage, par exemple, ça l'empêche de faire plein de choses dans sa vie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le complexe organise notre vie, où ça devient un peu une obsession, on se trouve, comme vous disiez tout à l'heure, soit répugnant. Moi, j'entends souvent dans la consultation les gens qui disent « je suis monstrueuse, je peux pas me montrer comme ça ». Enfin, il y a vraiment la question de la honte qui est très, très forte. C'est bien de pouvoir être accompagné. Alors, comme le disait tout à l'heure, je trouvais ça vraiment intéressant, l'intervention du docteur Aurène Marco, parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec lui sur ce que, à la fois, peut-être il y a des choses qui... Alors, je parle pas du tout d'Hélène, hein, là, pardon. Mais effectivement, il y a parfois des choses qui peuvent être retouchées et vraiment, ça soulage et tant mieux. Moi, j'ai pas du tout de jugement moral sur cette question-là. Si ça fait du bien et que ça permet d'être plus heureux, vraiment, c'est formidable. Mais parfois, il y a des complexes où finalement, la question de la retouche ne se pose pas forcément parce que c'est, comme disait tout à l'heure Julien Dufresne-Lamy, d'ailleurs, c'est très présent dans son livre. Ça parle aussi de comment on existe au monde, comment on existe dans la relation à l'autre, dans la relation amoureuse. Ça parle aussi de la place qu'on prend dans le monde. Et donc, finalement, on le fixe sur un complexe. D'ailleurs, en général, c'est très précis. On parlait des cuisses tout à l'heure, du nez. Enfin, c'est vraiment une chose, mais finalement, c'est que la pointe de l'iceberg, d'une certaine manière. Donc, c'est pouvoir travailler avec un thérapeute sur ce que ça dit de notre être au monde et de notre être en relation avec les autres.
Alors, dans un instant, on va se retrouver à faire un tour par l'information. On va se retrouver avec Natalia, que vous connaissez, docteur Aurène Marco. Hélène, merci beaucoup d'avoir témoigné. Bon, j'espère qu'on vous aura donné des pistes, non pas de réflexion, parce que je pense que vous cogitez beaucoup et peut-être que vous cogitez peut-être un peu trop.
Oui, je crois que c'est ça le problème, en fait.
Mais en tout cas, peut-être qu'on vous aura donné d'autres pistes, vous allez rester à notre écoute et écouter les autres témoignages qui vont peut-être éclairer davantage votre chemin. Merci à vous, en tout cas,
avec
Hélène.
Plaisir.
Prenez soin de vous, hein. Voilà, soyez un peu indulgente avec vous-même.
C'est et puis, on se donne rendez-vous sur la plage dans 5 ans, c'est ça ?
Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je ne suis pas loin d'être un peu comme vous sur certains trucs. Donc oui, on se fera du bien. Parce que je me dis aussi qu'on doit s'entraîner entre personnes, justement, souffrant de complexe. Ouais, ce sera avec un grand plaisir. On se donne rendez-vous. Mais on n'attend pas 5 ans, ok ?
C'est noté.
À bientôt, Hélène. Prenez soin de vous. On passe à l'info sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
On parle de nos complexes. Est-ce qu'il est des complexes qui sont absolument insurmontables ? Géraldine a 32 ans, elle souffre d'acné depuis son adolescence. J'ai tout tenté, notamment les antibios, la pilule, mais rien à faire, les boutons reviennent. Et pas seulement sur le visage, le cou, le dos, les bras, le buste aussi. Je suis en dépression depuis des années à cause de ça et je ne sais pas comment m'en sortir. Voilà des boutons d'acné, on en a tous eu. Voilà un complexe qui s'étend, je dirais, et prend énormément de place. On est ensemble jusqu'à 15h30. Julien Dufresne-Lamy, votre livre Anti-chute chez Flammarion, il raconte votre découverte de la calvitie, qui d'ailleurs a un nom beaucoup plus barbare, qui s'appelle l'alopécie androgénétique. Vous n'aviez que 22 ans quand vous avez réalisé que vous perdiez vos cheveux. Et effectivement, quand Géraldine nous explique, c'est parti d'un détail, et puis puis c'est devenu quelque chose d'énorme et ça a littéralement changé ma vie. Ça a été votre cas pour vous?
Oui, j'ai eu l'impression de vivre une sorte de tournant effectivement un peu existentiel où comme Hélène, je me suis... Ce que disait aussi Cécile Guéret tout à l'heure, c'est lorsque le complexe empêche de vivre. Moi, c'est pareil, je me suis pas baigné pendant 10 ans, je regardais aucun miroir en public, je repérais les stations de métro les plus venteuses dans Paris pour éviter justement d'avoir les cheveux qui se déplacent.
Cette fameuse mèche qui...
Exactement, la fameuse mèche code-barre qu'on vient un peu placer comme ça de façon très stratégique sur le crâne pour cacher un peu les trous.
Comme nos grands-parents.
Comme les hommes politiques, comme plein de gens.
Ouais, c'est
au
vrai.
Fond.
Voilà, c'est banal et pourtant c'est pas banal.
Voilà, ça montre en tout cas à quel point les hommes aussi peuvent en fait subir, enfin ressentir certaines... Parce qu'on a l'impression que quand on parle du monde esthétique, de complexe, que c'est une injonction au physique qui est prégnante du côté des femmes. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui est beaucoup plus difficile, cruelle. Enfin, du coup, voilà, parce que c'est une société qui est régie par le paraître à tout prix, par le jeunisme. Voilà, exclure les hommes de cette injonction-là, je trouve que c'est faux, parce que moi, je reçois tellement de témoignages d'hommes dégarnis chauves, même d'hommes chevelus, qui doivent aussi, en fait, sur d'autres éléments masculinistes, comme la barbe, la voix, le muscle, doivent aussi, en fait, être au monde et composer de façon, voilà, comme ça, très, avec cette stature-là. Donc, c'est vrai que c'est, peu importe, finalement, nos genres et nos milieux, nos professions, finalement, qui on est, c'est rassurant de savoir que c'est assez universel et qu'en fait, ça nous touche tous, cette histoire du complexe.
C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai eu votre ouvrage entre les mains. Je me suis dit, c'est un homme qui parle d'un complexe qui est partagé par tant d'hommes. Quels sont les complexes les plus courants, je dirais, Oren Marco, chez les hommes et chez les femmes?
Chez les hommes, typiquement, effectivement, la calvitie. Le nez également, qui fait partie des complexes, mais qui sont des deux côtés. Les motifs de consultation de chirurgie esthétique ne sont pas forcément liés au complexe. Il y a de la chirurgie des complexes, il y a la chirurgie anti-âge et il y a la chirurgie de transformation. Donc je dirais que les hommes, principalement, sont ça. Pour les femmes, c'est un peu différent. Ça peut être un peu tout. Mais j'ai envie de vous dire que c'est très universel, le complexe. Je pense que tout le monde a des complexes, mais tout le monde n'a pas le même bagage, les mêmes armes pour lutter.
Pour y faire face.
Si on a confiance en soi, ça dépend vraiment de son état de base psychique, si on est fort, si on a confiance en soi, de son entourage, etc. Et on arrive à les affronter différemment en fonction de sa personnalité.
Cécile Guéret, comment naît un complexe? Vous parliez tout à l'heure d'une réflexion qu'aurait pu entendre Hélène quand elle était petite. Déjà, le regard que nos parents ou nos copains ont posé sur nous est, je pense, assez essentiel. On a tous des phrases qu'on a entendues quand on était gamin, où on se faisait chambrer parfois par nos propres parents et ça nous faisait vraiment du mal. Comment ça naît? Comment ça s'installe, un complexe?
Oui, ben c'est exactement ce que vous dites. Ça peut, en fait, c'est très singulier. C'est-à-dire que c'est vraiment, moi, je suis toujours étonnée en consultation. Je vais avoir une idée assez précise que, par exemple, un complexe, ça va être, par exemple, un complexe de poids, ça va être, je peux imaginer la réflexion du parent sur ce qu'on a dans notre assiette quand on est petit, ou ouais, le fait qu'on ait une taille en trop ou une taille en moins. Et finalement, ça va pas forcément jouer à cet endroit-là. En fonction des histoires des individus et du sens aussi que chacun y met, ça peut être vraiment très étonnant. Ça devait être une petite phrase, mais qui n'a pas forcément lien directement avec le complexe, mais qui a été interprétée ou comprise comme ça à ce moment-là. Ça peut être aussi, parce que là, on parle principalement des complexes physiques, mais il y a aussi les complexes sociaux.
Bien sûr.
Ça peut vraiment être lié, par exemple, à l'appartenance à un milieu socio-culturel, ou alors les complexes, par exemple, d'infériorité intellectuelle. Ou d'avoir l'impression de ne pas être assez cultivé. Enfin, et ça peut, il peut y avoir des ponts entre ces complexes sociaux ou culturels et ça va pouvoir se fixer sur un élément du physique. Et puis, il peut y avoir, souvent, il y a quand même la question de la maîtrise, hein, de la maîtrise du corps. Et c'est vrai que, avec l'idée qu'on aimerait pouvoir maîtriser, façonner et vraiment faire notre corps à l'image de ce qu'on aimerait être. Hein. C'est un peu la question de l'idéal de soi, mais aussi de comment est-ce qu'on se perçoit et qu'on aimerait que les autres nous perçoivent tel qu'on aimerait être vu.
Mais c'est marrant parce que moi je pense aussi, docteur Oren Marco, quand on a une petite différence ou une petite, ce qui pourrait être considéré comme une petite faiblesse, je dis n'importe quoi, hein, un enfant qui a un léger strabisme, des oreilles un peu décollées, qui perd ses cheveux un peu jeunes, une fille qui a un peu des rondeurs, on va nous chambrer systématiquement. C'est-à-dire que c'est bien souvent le regard de l'autre aussi qui va venir s'engouffrer sur un truc au motif de qui aime bien châtie bien, mais qui crée quand même un vrai mal-être.
Après, comme le disait notre thérapeute, là, on peut avoir effectivement des complexes qui sont liés. C'est un peu simple comme lien, j'ai l'impression. C'est-à-dire les petites phrases, les petits complexes, tout dépend vraiment si derrière, bah, vous avez une vie de famille solide avec... Tout ça, ça joue énormément. Maintenant, il y a des histoires un peu plus profondes. Et des fois, on peut avoir des complexes qui sont... Et on découvre des choses bien plus profonde, bien plus...
Sur des drames qu'on peut vivre
sur des drames, sur des relations... je veux pas faire... Je suis pas du tout analyste, mais oui. C'est vrai que... rapport au complexe d'Œdipe, rapport à l'enfance. Par exemple, le nez, ça a été pendant très longtemps, on a dit que le nez, c'était le phallus du visage et qu'en fait, c'était très souvent le lien avec le père. Et donc, les gens qui avaient envie d'une rhinoplastie pour modifier, c'était soit qu'ils aimaient trop leur papa, soit qu'il y avait un attachement trop important, ou alors carrément vraiment un problème avec le père. Ça a été montré dans plusieurs ouvrages. Et des fois, j'ai plusieurs histoires où j'ai carrément eu une jeune fille qui est venue avec un nez tout mignon qui m'a demandé de lui rajouter une bosse parce qu'elle ressemblait trop à son père.
Ouais, alors ça, c'est le visage de nos parents qui finissent par se profiler sur le nôtre avec le temps qui passe. Et ça, je pense que ça peut créer effectivement deux, trois complexes ou en tout cas réflexions sur notre physique. Il en est certains qui sont atteints aussi de malformations congénitales, à l'instar de Natalia qui va nous rejoindre tout de suite là dans un instant sur RTL.
RTL,
Flavie Flamand. 14h30, 15h30,
Flavie Flamand sur RTL.
J'ai un énorme complexe lié à ma peau qui est affreuse, nous écrit Léa. Qu'est-ce qu'on emploie des mots difficiles à notre endroit? Avec des pores dilatés, des points noirs, j'ai testé plein de crèmes, des peelings, rien n'y fait. Heureusement, les filtres Instagram me sauvent la vie et le fond de teint aussi. Mais impossible pour moi d'envisager une relation amoureuse. Je ne supporterai pas qu'un homme me voie le matin au réveil. Je préfère rester célibataire toute ma vie. Eh bien Léa, vous avez 26 ans. En voilà un message qui nous arrive dans le cœur dans cette émission consacrée au complexe parce qu'on se demande s'ils sont insurmontables. Il y a des réponses, évidemment, et notamment des réponses que peuvent peut-être vous apporter des thérapeutes et des spécialistes parce qu'il y a la psychologie, on en parle aujourd'hui avec Cécile Guéret, et puis il y a aussi tous ces moyens, à un moment donné, peut-être aussi de lutter, de transformer les choses contre nos complexes, à l'instar de Julienne Dufresne-Lamy, parce que votre livre s'appelle Antichute, mais vous avez des cheveux dans ce studio. Donc c'est bien qu'il s'est passé un truc entre-temps. Hein, voilà. Le docteur Aurène Marco, lui, il est chirurgien plastique et esthétique. Et on est en ligne avec Natalia, que vous connaissez. Natalia, bonjour.
Bonjour, enchantée.
Bah oui, moi aussi, je suis très heureuse de vous entendre. Vous avez 32 ans. Vous travaillez dans une agence de marketing d'influence. Alors vous, vous avez été atteinte d'une malformation congénitale qui s'appelle...
Pectus excavatum.
Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi ce truc-là?
Alors en fait, l'autre nom un peu vulgarisé, c'est thorax en entonnoir.
Thorax en entonnoir, ouais.
Tout à fait. Donc ma malformation se situe totalement au niveau de mon thorax, qui va du coup, il est rentré. Donc j'ai littéralement un trou entre les deux seins.
D'accord.
Pour visualiser la chose. Ouais. Et qui peut être plus ou moins profond, on va dire, parce qu'il y en a qui sont relativement légers et d'autres qui sont vraiment handicapants. Ouais. En termes de respiration et tout ça, moi je suis plutôt chanceuse. Et du coup, le sexe ratio, il est environ de 5 hommes pour une femme. Donc c'est vraiment une pathologie qui est plutôt masculine. Et je fais partie des malheureux élus, entre guillemets.
Oui.
Du coup, c'est vrai que c'est un... Moi, ma problématique, pendant presque toute ma vie, parce que je suis née avec ça, mais ça s'est aggravé, on va dire, avec le temps, c'est que personne, en fait, m'a jamais considéré, que ce soit mes médecins, quand je leur montrais mon thorax, quand j'étais vraiment très jeune, même après plus vieille en tant que femme, qui m'ont toujours dit, genre, mais c'est rien. Mais non, c'est pas rien, en fait, parce que j'ai fait du sport, je vois mes amis, mes camarades. J'ai jamais vu une femme avec ça, en l'occurrence. J'ai vu des garçons, mais aucune femme. Donc c'est vrai que ça a été très difficile de me construire avec ça, surtout que moi aussi, ma mère, on m'a toujours regardée avec les yeux de l'amour. Et quand je lui parlais de ce complexe, qui était vraiment pour le coup handicapant en tant que femme, elle me disait « mais non, c'est rien, c'est toujours été ça en fait, c'est rien ».
C'est hyper intéressant, on fait une pause dans votre témoignage, parce que effectivement, Julien Dufresne-Lamy, on ne doit pas déconsidérer les complexes. Vous avez entendu, vous ? Bon, bah, ça va.
Oui, ça ne se voit pas, c'est pas très grave. Ou alors, rase-toi les cheveux. Toujours cette tentation à diminuer, en fait, à faire disparaître ce qui, en fait, est ancré en nous et nous abîme.
C'est ça.
J'ai l'impression que ça produit l'effet inverse et, en fait, ça devient encore plus obsédant, quoi.
Les thérapeutes doivent entendre aussi, docteur Aurène Marco, ce genre de considération.
C'est vrai que quand vous allez voir votre médecin généraliste pour un complexe, il n'est pas habitué à recevoir ce genre de demande. Donc, effectivement, il essaye peut-être à tort de vous canaliser, de calmer les choses, mais je pense qu'il faut écouter. Et des fois, vous pouvez avoir un tout petit complexe qui change une vie. Moi, j'ai déjà vu des patients, j'ai eu un patient vraiment avec une espèce d'esquille osseuse sur le nez qui voulait une rhinoplastie et carrément, je l'ai opéré vraiment pour un truc ridicule, mais qui a été salvateur pour lui sur le plan psychologique et il s'est libéré après. Mmh. Et des fois, des petites choses peuvent complètement changer. Et Natalia en est la preuve.
Bah oui, parce que Natalia, vous vous êtes passée donc entre les mains expertes du docteur Oren Marco, petite chanteuse. c'était bien.
Mais je n'ai pas terminé.
Ouais, alors.
Fait, en gros, moi, j'ai décidé de me prendre en main environ vers mes 30 ans. Je me suis dit, bon, j'en ai marre. Allez, on se réapproprie sa propre personne et ma féminité, en l'occurrence.
Ouais,
et du coup, j'ai commencé à démarcher du coup, des chirurgiens esthétiques. Et la plupart me proposaient des interventions très invasives avec la pose d'une prothèse en silicone dur. Du coup, il y avait des drains. Enfin, c'était vraiment très invasif et coûteux. Et du coup, c'est un jour... Bref, je connaissais déjà Oren et il m'a parlé, il m'a dit « Mais viens à mon cabinet, moi je peux m'occuper de toi. » Et c'est là qu'il m'a proposé en fait le lipolifting. Donc en fait, il prend de la graisse à des zones où elles sont en quantité.
Ça nous arrange quoi.
Évidemment. Pour me le réinjecter du coup au niveau de mon trou, pour entre guillemets cacher la misère quoi. On est parti sur plusieurs étapes, ce qui est très bien d'ailleurs. Et du coup là, effectivement, c'est assez fou de voir justement que
l'évolution.
Une intervention qui est assez bénigne, enfin voilà, parce qu'il y a une anesthésie locale, donc c'est facile, de passer d'une proposition d'une intervention très lourde à quelque chose qui est aussi, on va dire, facile à vivre et en même temps révolutionnaire pour moi.
Ouais, c'est ça.
C'est génial quoi.
Ça change votre vie en fait.
Ah ouais, littéralement.
Aujourd'hui.
Moi, je sais que dans mon intimité, en l'occurrence, parce que c'est quand même... je me mets pas en maillot de bain tous les jours, donc c'est sûr que voilà. Mais dans mon intimité, il y a un avant et un après.
Eh bien, écoutez, nous en sommes ravis, Natalia. Vous viendrez à la plage avec nous, parce que tout à l'heure, avec Hélène, on s'est dit qu'on irait à la plage. Donc, on ira avec vous aussi la prochaine fois. Merci à vous d'être intervenue sur cette antenne. Et le meilleur
Merci
pour la suite. À bientôt, Natalia.
Merci.
Salut.
À bientôt.
On se retrouve tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Alors, quand je lis les complexes de nos auditeurs, il y a la pilosité qui revient, effectivement. Alors, je me tourne, vous ne m'en voudrez pas, Julien Dufresne l'a mis vers vous, puisque votre lit s'appelle Antichute. Donc, j'imagine que vous parlez de ça, et pas des seins qui tombent. Donc, Pierre nous écrit, j'ai 35 ans, je suis imberbe comme un ado, alors que je n'ai pas de soucis de cheveux, impossible de faire pousser une barbe, même naissante. Mon air juvénile est plus un problème qu'autre chose, notamment dans mon milieu professionnel, où je ne suis pas toujours prise au sérieux, ça peut vous paraître bête, mais je le vis très mal. Est-ce que vous vous êtes inquiété de votre calvitie ici justement, et de son impact, je dirais, sur votre vie sociale, Julien Dufresne-Lamy.
La première pensée que j'ai eue lorsque j'ai découvert que mes cheveux tombaient, c'était c'est la fin de la jeunesse. J'ai 22 ans et pourtant, je suis déjà
vieux.
En train de m'approcher d'un vieillissement, presque de la mort, en fait. Les cheveux tombent, la tomber, qu'est-ce que c'est? Moi qui écris des livres, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet et je me suis dit, tomber, c'est chuter, c'est un peu mourir. Donc, là, je dramatise, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Ce qui est drôle, c'est qu'avec le témoignage que vous venez de citer, moi j'ai vu beaucoup d'hommes, notamment dans la clinique où j'étais opéré pour mes cheveux, des hommes qui aussi venaient se faire opérer pour des barbes. À quel point finalement ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Et quand je dis n'importe quoi, il n'y a évidemment pas de jugement, mais c'est vrai qu'on peut se focaliser comme ça sur un point qui pour en fait, aux yeux du monde, paraît être complètement trivial, très anodin, presque un peu moqué. Là je le vois avec la sortie du livre et la promotion du livre, sur les réseaux sociaux à la suite d'émissions ou d'interviews, je vois que pour la plupart des gens, c'est presque grotesque en fait de parler de souffrance ou de vulnérabilité, de fragilité quand on raconte une expérience alopécique ou...
Justement, Cécile Guéret, vous êtes thérapeute gestalt. L'influence que ça a, on parlait tout à l'heure pour les thérapeutes de ne pas minimiser le complexe, mais effectivement, ça peut aller très loin.
Oui, c'est vraiment une question essentielle parce que, comme dans toute souffrance, on a besoin d'être rejoint en fait là où on souffre. C'est-à-dire qu'on a besoin non seulement d'être entendu, d'être écouté, mais aussi d'être rejoint par l'autre, que vraiment il puisse vivre avec nous, sentir avec nous là, comme ça nous atteint, comme c'est difficile et que ce soit pris au sérieux. Alors c'est vrai que quand on parle de nos complexes, ça peut être un peu minimisé ou tourné à la rigolade par l'entourage qui souvent finalement fait un peu comme il peut parce que c'est comme il ne sait pas quelle réponse donner, il minimise parce que ça permet de, ça fait un peu un échappatoire. Mais je crois que finalement ce qui est vraiment réparateur, c'est en fait comme vous avez fait Flavie au début de l'émission avec Hélène, c'est-à-dire vraiment être dans une parole vraie, entendre réellement ce que dit l'autre et puis aussi pouvoir dire moi aussi j'ai des complexes, moi aussi il y a des choses qui sont difficiles à dire. Et c'est comment on peut être rejoint dans notre humanité, hein, finalement, dans le lien, dans ce qu'on partage tous de difficile, même si ça se met sur des complexes différents, par exemple, où nos souffrances sont toutes différentes, mais de pouvoir être rejoint ainsi dans notre humanité, c'est ça qui est réparateur.
Alors, docteur Aurène Marco, vous êtes chirurgien plastique, vous êtes chirurgien esthétique, vous vous occupez aussi de reconstruction post-cancer. Donc là, on est dans un domaine qui est évidemment tout autre. On est dans un monde avec une injonction de la perfection du corps telle qu'elle est là aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 50 ans. Et en même temps, il y a des mouvements aujourd'hui de body positive, il y a des femmes qui s'assument davantage. Est-ce que le monde est en train de changer depuis le temps que vous pratiquez? Est-ce que vous avez le sentiment là de... Vous prenez le pouls, vous, dans votre cabinet? Qu'est-ce que vous ressentez?
J'ai le sentiment d'abord que les consultations se sont rajeunies, notamment liées effectivement aux réseaux sociaux et à la quête de la perfection et aussi aux filtres Instagram ou d'autres réseaux, qui effectivement donnent une version améliorée de soi-même et qui peuvent un peu pervertir les choses. On a l'impression avant, ce type de problème, c'était surtout chez des gens qui bossaient dans l'image, donc des mannequins, des actrices, etc. Et maintenant, ça se dilue un peu partout, ça se démocratise, et des gens qui ne sont pas forcément dans l'image, vu qu'on est tous sur notre image, sur les réseaux, à se montrer, etc., eh bien tout le monde a envie de chercher une meilleure version de soi-même. Et ça peut être dangereux quand derrière, on est trop jeune, on n'est pas préparé à ça, et on n'a pas le bagage pour assumer une chirurgie. On peut prendre aussi des mauvaises décisions. Donc c'est bien de consulter des gens qui sont responsables et de prendre plusieurs avis et de venir accompagner aussi.
D'accord. Ça, c'est un message de prévention que vous faites passer auprès des jeunes. On consacrera une émission justement sur ce genre de sujet prochainement et j'espère que vous viendrez nous en parler, Aurène Marco. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes chirurgien plastique et esthétique à l'hôpital Saint-Louis et dans le privé à Paris. Julien Dufresne, l'ami, je conseille votre livre Anti-chute chez Flammarion. Effectivement, c'est rare de voir un homme et de lire un homme. En plus, c'est vraiment, j'aime beaucoup votre écriture, mais parler du complexe masculin. Donc merci à vous.
Merci.
Et Cécile Guéret, je conseille votre blog La Psy Buissonnière, j'aime trop. Et votre livre Aimer, c'est prendre le risque de la surprise aux éditions Albin Michel. Merci Cécile Guéret.
Merci à vous.
À bientôt sur RTL. Merci à vous tous d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Rendez-vous demain dès 14h30 pour de nouvelles conversations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.